Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok, ça tourne pour toi mon gars. Salut, c'est Thomas Rozek. Alors on aurait pu s'arrêter là sur notre série tectonique Danser, mourir, recommencer. On aurait pu affirmer que la tectonique avait disparu totalement, mais ça n'aurait pas été vrai, vous allez comprendre. On a imaginé donc un dernier épisode sous forme d'épilogue. Une petite discussion avec Karim Boukarcha qui est là avec moi. Salut Karim.
Salut Thomas.
Alors, je voulais te demander Karim, pour lancer un peu cet épilogue, qu'est-ce qui t'a étonné toi? Qu'est-ce qui t'a surpris dans la fabrication de cette série que tu as faite avec Quentin Bresson?
Au départ, moi j'avais une curiosité sur un phénomène qui à mes yeux était terminé, passé, où j'avais l'impression qu'on pouvait raconter quelque chose d'intéressant qui n'avait pas été raconté. Et c'est pour ça que j'ai tendu le micro à tous ces gens-là. Et puis finalement, très vite, quand je leur ai tendu le micro en leur disant « bah voilà, j'aimerais faire ça », eux, ils m'ont dit « mais tu sais, c'est pas fini, quoi ». Et vraiment, je sentais dans l'énergie, genre « mec, c'est presque une insulte, tu commences mal, tu vois ». Du coup, comme moi, mon but, c'était de faire un truc juste et...
Le plus près de la réalité.
Voilà, je me suis dit, j'ai commencé à les faire parler là-dessus. Ouais. Et là, très vite, on m'a dit, mais tu sais, ça a explosé dans le monde entier. Il y a des danseurs en Amérique du Sud, beaucoup, dans les pays de l'Est, il y a des grosses scènes, etc. Et du coup, ça m'a vachement intrigué. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est intéressant parce que eux, ils ont été à la croisée de l'époque, au milieu de, tu vois, de ce phénomène de mode, la médiatisation, etc., l'arrivée des réseaux sociaux. Et puis, de ça à en fait, c'est la naissance d'un courant et derrière, ils ont réussi à s'en relever, quoi. Oui. Tu vois. Donc, alors évidemment, ça passe par des fois des dissensions entre danseurs, comme dans tout courant quand ça naît, des gens qui veulent amener ça à gauche, d'autres qui veulent amener ça à droite, à un âge où les gens sont jeunes, donc savent pas forcément communiquer les uns avec les autres. Voilà, donc du coup, moi, c'est ça qui m'a étonné, c'est qu'en fait, j'ai découvert qu'il restait beaucoup de danseurs électro.
Et qu'en fait, la tectonique avait donné naissance à la danse électro, même si les danseurs électro ont mis du temps à reconnaître cet héritage.
En fait, exactement. Et tout part de quelque chose qui est assez inédit, en fait. C'est que la tectonique, donc, comme le dit le raconte notre série, naît au Métropolis, est à la base une soirée et donc une marque déposée. Et quand les journalistes, en fait, s'intéressent à ce phénomène, c'est les journalistes en fait qui appellent ça la tectonique.
Oui.
Et d'un coup, aussi bien les gens qui sont au Métropolis et compagnie se retrouvent à être appelés les danseurs tectoniques. Et en parallèle de ça, tous les gens qui dansent dans d'autres clubs électro de l'époque, on leur dit vous faites de la tectonique. Et en fait, tout cela, ils sont pas d'accord avec cette appellation. Ouais. Et surtout, ils sont super pas d'accord d'être représentés par une marque.
C'est vrai que le truc devenait très, enfin tout le côté tectonique, enfin le courant que eux essayaient de développer, vu qu'il y avait tout un courant un peu plus jeune qui ne rentrait pas en boîte, qui s'en était accaparé, ne se reconnaissait pas du tout avec ce qui se passait, et voilà, qui n'était pas du tout en adéquation avec ce qui se passait.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas, la tectonique, c'est une marque, et la danse électro, c'est une danse. Donc en gros, c'est comme si tu allais voir quelqu'un qui danse le hip-hop et tu lui dis excuse-moi, tu fais pas. Tu danses le Nike, toi? Ah, je reconnais ça, j'ai vu dans la pub Nike, là, c'est du Nike, ça, cette danse.
Je me rappelle très bien, il y a un message qui a tourné, etc., entre danseurs un peu plus, tous un peu connus, qui disaient, bon, comment on appelle cette danse? Nous, on l'a appelé Milky Way. Il y avait le côté un peu plus urbain, etc., qui disait, c'est de l'électro, ce qu'on danse. Danse électro, pourquoi vous voulez appeler le truc Donc, du coup, ça a tellement bégayé sur le nom qu'on a dit c'est bon, ça s'appelle danse électro et tout le monde va l'appeler comme ça.
Du coup, ça crée une fracture et cette fracture, elle est d'autant plus marquée par le fait que d'un côté, au Métropolis, c'est un style d'électro et un style de population.
Oui.
Et de l'autre, c'est un autre style qui est plus, on va dire, souvent c'est plus des gens de banlieue. C'est aussi des gens qui rentrent pas en boîte, alors soit parce qu'ils sont de banlieue ou de quartier, ou alors soit parce qu'ils sont trop jeunes. Et donc du coup, d'un seul coup, c'est hyper étrange et peut-être même un peu injuste pour bizarrement les danseurs du Métropolis qui commençaient en plus à avoir beaucoup beaucoup de lumière, c'est qu'ils sont jugés par les danseurs quelque part de rue comme le mainstream. Sauf que quand tu fais parler L'autre côté, eux, ils te disent, mais nous, on n'a pas choisi d'être le mainstream. Et d'ailleurs, la notion d'underground, elle était vraiment particulière parce que pour les gens du Métropolis, à la base, c'est eux l'underground, vu que c'est eux qui ont fait d'être le truc sûr, là-bas, sans rien demander à personne, au pont d'Aringis. Du coup, en fait, d'après moi, ce que je retire de mes discussions avec les danseurs d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une forme d'incompréhension. Et donc, quand la tectonique avec la médiatisation est devenue, on va dire, un peu dossier, tu vois, ça a augmenté la fracture. Et donc du coup, pendant très longtemps, on a des danseurs qui nous le disent, qui se sont défendus de cette étiquette
cette
tectonique.
Appellation-là, ouais.
Alors qu'au fond, quand tu creuses un peu avec eux, tu te rends compte qu'ils reconnaissent plein de mouvements de cette danse, ils reconnaissent, voilà. L'autre événement qui fait survivre, et qui presque même sauve le mouvement de la danse électro, c'est un battle de danse, une compétition, organisée par trois figures du mouvement hip-hop, qui sont Yuval, Steady et Axon, qui créent... un événement où les danseurs peuvent venir se confronter. Donc en fait, ils prennent un peu les codes du hip-hop, comme eux en organisaient des contests comme ça dans le hip-hop, et ils disent aux danseurs électro, venez danser dans ce genre de compétition, etc.
Donc du coup, il y a vraiment tout un mouvement comme le mouvement Vertified, qui était beaucoup plus urbain, qui eux vraiment attaquaient le problème à la racine, avec des faisaient des événements en journée pour les plus jeunes, etc.
C'est Teddy qui faisait les flyers, et qu'un jour, Teddy, dans un flyer, il prend une photo d'un mec avec des ailes dans le dos, genre le mec beau gosse, tu vois, mais un mannequin, qui est en contrat avec la marque Tectonique. Donc, si tu veux, des photos que la marque Tectonique, elle a payées pour obtenir. Bon, nous, dans l'époque, on fait des flyers, on prend des photos à droite à gauche, on fait des flyers comme ça, c'est pas non plus commercial de ouf, tu vois. Tu vois pas, nous, on faisait un événement, on accueillait 50-80 personnes. On n'était pas les plus dangereux du monde pour vous, pour Tectonique, quoi. Mais sauf que Tectonique, quand ils l'ont su... Parce que eux aussi, ils commençaient à entendre pas mal parler de Vertified, mais sauf que eux, c'était Tectonique. Et nous, on était le Verti, on était une petite structure qui commençait à monter. Et je lui ai dit, nous, chez nous, on a des champions, et moi, je te fais une proposition. Le meilleur de chez toi, Trixie, contre le meilleur de chez nous, Milliard.
Pour que ces deux scènes, danseurs du Métropolis un peu mainstream, enfin devenu mainstream, et danseurs, on va appeler ça un peu de rue et des autres clubs, pour qu'il y ait une unification, en fait, à un moment donné, ils organisent un battle entre Milliard, qui est un danseur qui représente le mix club, la danse de rue, et ce nouveau courant que eux ont baptisé danse électro, ils sont complètement détachés du nom, et Trixie, qui est l'égérie. Et en fait, ça, c'est cool parce que, à travers ce conflit organisé,
ce duel,
ça a permis que ça fasse un tout un peu homogène. Voilà. Par contre, ce qui est un truc qui est super important, c'est que à la fin de la mode tectonique, il y a plein de danseurs qui étaient notamment des danseurs du Métropolis qui vont au Vertified et qui se reconnaissent pas dans les valeurs du duel, du défi, qui sont vraiment propres en général, en tout cas, qui sont très forts dans le mouvement hip-hop.
Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours été très timide et réservée. Et j'ai jamais, en fait... parce que je trouvais que ça avait un côté vraiment... C'est pas que c'était agressif. Pour ma part, je le ressentais un peu comme ça. Parce que c'était vraiment le battle, mais le pur battle hip-hop, où on donne sa rage, son truc, son machin. Et j'en ai moins de partage, en fait.
Et puis eux, aussi, il faut voir qu'ils étaient dans un environnement où... Ils dansaient pour danser, tu vois. Au mieux, c'était à l'applaudimètre vite fait, tu vois, machin. Mais voilà, mais en fait, c'est vrai que quand le Vertified arrive, t'as tous ces danseurs de rue qui ont pas la lumière, beaucoup moins de lumière que les autres, qui aussi les attendent au tournant. Et ils ont envie de les tester, quoi, tu vois. Donc en fait, dans cette rivalité, je pense que ça leur a permis de se trouver. C'est ça qui est important à retenir, parce que aujourd'hui, ce qui est, moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai senti, en fait, que des gens qui étaient juste liés par l'amour de la danse.
Oui.
Et finalement, par les mêmes valeurs. Même s'il a fallu qu'ils se testent un peu, qu'ils se chamaillent un peu, et puis bon, faut pas perdre de vue que tous ces gens-là, à cette époque-là, les plus âgés ont peut-être 20-22 et les plus petits ont 13-14, tu vois. Donc faut vraiment remettre ça en perspective. Et donc eux, voilà, c'est la genèse de ce que va devenir le courant aujourd'hui. tous ces gens-là ont continué de danser. Pour beaucoup, sont devenus des gens qu'on retrouve dans des films, dans des comédies musicales, dans des spectacles, dans des pubs. L'autre élément important sur le Vertifight, c'est que cette danse vient des clubs. Et dès qu'il y a eu cette compétition, qui était régulière, ça les a forcés à développer leur danse. Chaque semaine, il y avait beaucoup d'évolutions. Donc, si t'arrivais et que t'étais pas prêt, bah, t'étais en galère parce que tout le monde te disait que t'étais nul. Donc, en fait, du coup, ça a vraiment été un incubateur. Voilà. Ouais. Et je pense qu'ils doivent beaucoup à Steady, Yuval et Axon. Et d'ailleurs, ils le reconnaissent. Et donc, il y a un passage de relais qui est aussi intéressant entre une danse hip-hop qui commençait à devenir mature avec pas mal maintenant d'expérience et une danse naissante. Parce que la danse électro, ce que j'ai entendu chez les gens qui m'ont parlé de ça, c'est que finalement, cette nouvelle génération, elle aurait très bien pu accéder juste au hip-hop et pas aller dans l'ancien, oui. pas créer quelque chose pas de nouveau ou de laisser nouveau. La tectonique mourir et, oui. et aller dans autre part, dans l'autre courant. Et en fait, ils ont tous été, ils ont senti qu'il y avait un truc du futur. C'est-à-dire, là, il y a la place pour nous d'exister dans quelque chose de nouveau et pas d'aller dans des codes anciens, etc. Et aussi avec une autre énergie. Et ça, je pense qu'ils ont vraiment bien fait parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui, ça a perduré et que, voilà, enfin, c'est vraiment génial ce qu'ils font, quoi. Ce qu'il faut pas perdre enfin, ce qu'il faut remettre en perspective aussi, c'est que donc cette compétition de Vertifight au départ est très locale, et puis d'année en année, elle grandit. Donc il y a des championnats de France, des championnats du monde, et puis tout est filmé par les différents activistes de ce mouvement-là. Et c'est ça qui donc les vidéos vont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et là, d'un seul coup, bah, c'est ça qui fait que dans le monde entier, plein d'autres mecs se disent « c'est pas terminé, moi aussi je peux écrire quelque chose là-dessus ». Et il est pas rare que des danseurs que j'ai rencontrés qui dansent aujourd'hui me disent « putain, on me parle encore de vidéos que j'ai fait quand j'avais 14 ans au Mexique, on me reconnaît dans la rue, on me dit « ah, c'est toi dans la vidéo avec machin, etc. » tu vois.
Ça boucle un peu l'histoire de la tectonique qui elle-même a bénéficié de tout ça. Toi, t'es retourné voir, Karim, les différents danseurs, les grands personnages de notre histoire pour leur demander, surtout leur poser une question assez importante qui est celle avec laquelle on a commencé nos discussions. Qu'est-ce qu'ils ont retenu, eux, de ce mouvement ?
Alors, pour les gens du milieu, enfin, du métropolis et vraiment du milieu tectonique, à la fois, c'est vraiment, en fait, c'est très partagé parce que d'un côté, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Unique, tu vois, c'est rare de faire partie de quelque chose qui naît, d'avoir conscience de rien, et ça à un âge en plus où tu découvres un peu la vie, quoi, tu vois. Et de l'autre côté, il y a une grosse amertume parce que, bah, en fait, c'est comme un peu le hip-hop auparavant, etc. C'est que, une fois que tu perds cette innocence des tout débuts, il faut que la culture se développe, donc tu passes à un âge adulte, toi aussi tu grandis. Et là, forcément, ça devient un peu plus laborieux, c'est un peu moins porté par la magie des choses. Et donc, du coup, ça peut créer des fois des gens qui... Moi, il y a eu, bah, je pense qu'on le ressent dans les témoignages, il y a de la tristesse dans beaucoup des témoignages, et aussi un profond sentiment d'incompréhension. J'avais encore ce matin, donc il a été diffusé hier, le numéro 3, qui parle surtout du mépris autour de la tectonique, comment ça a déclenché des haines. Et ce matin, j'avais au téléphone, allô, bah, Trixie qui m'appelle pour me dire qu'il avait écouté, il les a écoutés avec son père en plus, etc. Et il me disait, putain, ça m'a vraiment touché de me rappeler à quel point, en fait, c'est vrai qu'on a déclenché quelque chose de haineux. Et vraiment, on comprenait pas pourquoi les gens nous en voulaient autant. Et enfin, tu vois, ça questionne vraiment, en fait, j'ai l'impression, dans notre société, comment on est presque on est pas tolérant, en fait. C'est-à-dire qu'on est incapable de et chacun à notre échelle, hein, bien sûr, on est vraiment incapable de laisser les gens dans leur truc et leur dire ah ouais, toi c'est ça ton truc, bah, c'est génial, vas-y, fais-le, tu vois, et puis moi je vais faire autre chose, tu vois. Mais c'est peut-être ça vraiment, pour moi, ce truc là à nous enseigner, c'est-à-dire que voilà, encore là, quand je disais je faisais cette série à des gens qui ont rien à voir, tout de suite c'était le mépris, le sourire en coin, et voire même j'ai même pas envie d'aller écouter pour voir ce qui éventuellement il pourrait y avoir derrière. Par contre, de l'autre côté, il y a un truc qui est vraiment cool, c'est que les gens qui l'ont écouté, je reçois énormément de messages de gens qui me disent « putain, j'aurais jamais pensé que derrière ça, il y avait ça, et c'est vraiment cool, et je me sens un peu con d'avoir pensé de cette manière-là ». Du coup, je suis content d'avoir fait ce truc, et je suis surtout hyper content d'avoir rencontré tous ces gens, ceux du passé, mais aussi et beaucoup ceux d'aujourd'hui, parce que bah, c'est des passionnés, quoi. Et moi, je trouve qu'on a besoin dans notre société de gens qui font pour faire, qui vivent, quoi.
Mais c'était ça qui était bien avec la tectonique, c'est qu'on n'était pas comme tout le monde. On avait, c'était un truc de fou. On avait notre musique, notre club, notre façon de s'habiller et notre danse. Mais qu'est-ce que tu voulais de plus ? C'était une famille. Et je pense qu'on a tout niqué. Tout est parti en cacahuète à cause de trop grand, vouloir trop grand, trop vite peut-être, à cause de TF1 et de vouloir faire commercial. Absolument avec ça, alors qu'on n'aurait pas dû. Je pense que ce qui nous a poussé en avant tout au début, c'est l'underground. Le fait de rester entre nous, et je suis sûr que si on était resté entre nous à faire des soirées comme ça, on aurait pu attirer un plus large public, mais tout en restant une famille. Et pas en allant faire des clips de Laurie ou des trucs qui nous ont perdus.
Ce que je retiens, c'est que c'est un crève-cœur, parce que pour moi, c'est pas fini. Pour moi, il y a une histoire qui est pas écrite aujourd'hui, qui est encore trop floue dans l'esprit. Franchement, c'était très marquant, puisqu'on a vécu quelque chose qui était une unité totale, si tu veux. Pour en revenir, tu me parlais des gens de banlieue. Moi, je me souviens qu'il y avait des gens qui étaient pro rap et tout. Ils faisaient une soirée au Métropolis. Vous voyez comment ça se passait, qu'on pouvait parler à tout le monde, que tu pouvais parler aussi facilement aux filles, à tout le monde, à une ambiance au bon enfant. Ils arrivaient, c'était en survêt, la semaine prochaine, c'était habillé comme nous, quoi. Tout le monde a une période dans sa vie où il se dit, putain, c'était vraiment mieux avant, quoi. Je pense pas qu'on a perdu cette chose-là dans la communauté, intérieurement parlant. Je pense que cette culture et cette valeur, elle s'est transmise à travers le monde entier, indépendamment de nous, il n'y a pas eu besoin de parler. Et aujourd'hui, tu peux aller en Russie, au Brésil, tu vas avoir des danseurs électro, tu vas avoir le même feeling. C'est pas un milieu qui est fermé du tout, quoi.
Tectonique, danser, mourir, recommencer, c'est une série signée Karim Boukarcha et Quentin Bresson pour Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.